Bonjour. Je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série « Les promesses de la prière ». Ce matin, je veux jouer le rôle d'un coureur. Comme décrit dans cette histoire trouvée en 2 Chroniques 30 dans l'Ancien Testament de votre Bible. Les coureurs allèrent dans tout Israël et Juda et ils dirent « Revenez à l'Éternel afin qu'il revienne à vous. Donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux et ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. » Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville, partout dans le pays. Mais on se riait et on se moquait d'eux. Des moqueurs, des incrédules existent depuis toujours, mais ça ne décourage pas les vrais coureurs. Et évidemment, il n'y avait pas autre moyen pour communiquer en ce temps-là. Ça prenait des coureurs. Aucun Internet, Facebook, Instagram, YouTube. Ça prenait des coureurs en bonne forme et avec une bonne voix pour courir d'une ville à l'autre à travers le pays. Merci Seigneur pour la technologie. Ça donne l'occasion à des personnes comme moi qui ne pourraient même pas courir ma propre ville, laisser faire de ville en ville, de faire le travail d'un coureur, d'élever ma voix pour déclarer que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, comme nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. C'est une phrase qui confirme ce que les coureurs ont annoncé des milliers d'années avant, qui est encore vrai aujourd'hui. Et je le déclare avec conviction, peu importe l'opinion des sceptiques, car ce n'est pas rien qu'au Québec, en 2021, qu'il y ait des incrédules, des moqueurs, des gens qui ridiculisent. Ça existe depuis à peu près toujours, comme dans cette histoire. Mais peu importe l'opinion des autres, nous sommes prêts à courir contre le vent de l'opinion populaire s'il faut, contre le courant de la culture ou contre les tendances contemporaines. Ça ne nous fait aucune différence. Nous allons continuer à courir et annoncer comme ces coureurs. Nous sommes ici pour déclarer à haute voix qu'il y a des promesses pour ceux qui prient. Il y a une puissance pour ceux qui prient. Il y a des privilèges pour ceux qui prient. Car Dieu est là. Il étend sa main. Et si vous lui donnez votre main, il ne vous rejettera pas. Peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous ressentez, cet appel et ce privilège est pour vous. Comme Pasteur Claude a si bien dit la semaine dernière, personne n'est exclu. Personne n'est trop perdu, trop pécheur, trop petit. Qui était justement le message radical et bouleversant de Jésus. Quand il est arrivé sur la scène de l'histoire, il est arrivé avec un message qui, ultimement, lui a coûté sa vie. Je ne sais pas si vous savez, mais un des problèmes avec les Juifs religieux dans le temps de Jésus était qu'ils voulaient garder Dieu et sa parole et ses promesses exclusivement pour eux. Ils étaient sous l'impression que Dieu était là seulement pour les religieux, les vrais Juifs, les fils d'Abraham, le peuple de la loi, les purs, les dignes, et que tous les indignes étaient exclus de la grâce et la faveur de Dieu, exclus de son pardon et même de son salut. Car Dieu appartenait aux Juifs seulement. Il était leur Dieu. Le Dieu des Juifs pieux est selon eux le cercle de ceux qui avaient accès à Dieu et pouvaient bénéficier de ses promesses était très petit. Il avait une liste de critères longue comme le bras pour accéder à la faveur de Dieu. Mais là, Jésus arrive. Et Jésus déclare que Dieu est pour tous, les dignes et les indignes. Les Juifs et les non-Juifs, les grands et les petits, les forts et les vulnérables, les saints comme les pécheurs. Parce que dans le fond, nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin de Dieu. Scandaleux pour les Juifs religieux. Et dont la raison pour le conflit constant entre Jésus et les religieux, comme décrit dans les évangiles de votre Bible. Et ça explique aussi leur réaction aux paroles de Jésus en Luc chapitre 4, quand Jésus annonce son identité et sa mission. Vous connaissez bien l'histoire. Jésus est debout dans la synagogue et il lance sa mission avec ses paroles renommées que vous connaissez. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui parle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'avez-vous remarqué? La bonne nouvelle, c'est pour qui? C'est pour les pauvres, les brisés, les aveugles, les opprimés, les captifs. Alors, si vous vivez un de ces sentiments en ce moment, dû à tout ce que nous vivons depuis des mois, Jésus est là pour vous, précisément pour vous, pour ceux qui souffrent dans leurs émotions ou dans leur corps, ceux qui sont brisés ou pauvres, opprimés ou aveugles, Jésus est là pour vous. Il annonce sa mission. Sa mission est pour vous, pour nous. Alors, jusqu'à là, ça allait bien pour Jésus. Il annonce sa mission. Et là, on voit la réponse de la foule. Se dit, tous ceux qui trouvaient dans la synagogue, ayant les regards fixés sur lui, ils étaient étonnés, impressionnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Mais Jésus n'est pas terminé, il n'est pas fini. Il continue et il ajoute que cette grâce n'est pas exclusivement pour eux. Elle est pour tous, même pour ceux que les Juifs croyaient indignes, même pour ceux qu'ils détestaient. Et c'est là que la température change dans la pièce, parce que Jésus continue son discours et continue d'annoncer sa mission en racontant deux histoires de l'Ancien Testament. On revient à notre texte. Jésus leur dit, « Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y ait une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon, un nom juif. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. C'est le seul qui était guéri. Alors, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. L'auditoire a passé de étonner des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche à « ils furent tous remplis de colère ». Ça, c'est une réaction qui suscite souvent des questions. Pourquoi le changement d'attitude? Pourquoi le changement dans leur réaction? Parce que non seulement que Jésus se révèle comme le Messie, mais il ajoute qu'il n'est pas exclusivement là pour eux, mais qu'il arrive pour offrir le salut et les bénéfices du royaume à tous, incluant des veuves étrangères et des soldats païens. Ce n'est pas pour rien que Jésus se sert de ces deux histoires trouvées dans l'Ancien Testament où la faveur de Dieu est accordée à des non-juifs, incluant même un Syrien, les archi-ennemis des Juifs, un peuple détesté, indigne, impur, selon les Juifs. Et c'est pour cela la réaction violente de la foule envers Jésus. Car ils étaient sous l'impression que Dieu était uniquement pour eux, les choisis, les élites, les dignes, les purs, ceux de la bonne race, la bonne religion, la bonne famille, le bon pays. Dieu est là pour ceux qui méritent la faveur de Dieu. Dieu à leurs actions ou Dieu à leur arrière-plan ou leur religion. Mais Jésus arrive, tout comme les coureurs qui allaient de ville en ville pour annoncer que Dieu est là pour tous. Dieu est là pour tous ceux qui étendent leurs mains vers lui sans exception. L'accès à Dieu n'est pas limité à quelques élites. Les promesses de la prière sont pour tous et chacun. Elles sont pour les pauvres, les brisés, les petits, les dysfonctionnels, pour ceux qui pensent qu'ils sont disqualifiés de la faveur de Dieu. par rapport à leur passé, leurs anciennes transgressions, des décisions ou des actions ou des paroles dites qu'ils regrettent aujourd'hui. L'apôtre Paul a bien compris cette vérité, que Dieu est là pour tous. Remarque ce que l'apôtre Paul dit en Romains 10, très important par rapport à la prière. Très radical, cette phrase pour son époque. Parce qu'il commence avec, « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. » Donc, tout de suite, il capte l'attention de ses lecteurs. Aucune différence entre les juifs et les grecs. Ça, c'est un peuple qui est divisé. Il y a multiples différences entre les juifs et les grecs. De quoi tu parles, Paul? Puis il continue. « Puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche, pour qui? Pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Aucune différence entre le juif et le grec. Avec cette phrase, Paul, il capte l'attention de ses lecteurs parce que c'est incompréhensible pour les gens de l'époque. Mais d'une importance extrême pour nous, pour saisir la perspective de Dieu sur le monde. Car Dieu ne voit pas le monde comme nous le voyons. Dieu ne divise pas le monde en multiples catégories comme nous, selon les races, les couleurs, les langues, l'âge, le statut social. Selon Paul, Dieu divise le monde en seulement deux catégories. Deux, seulement deux. Et ce n'est pas entre grecs, juifs, riches, pauvres, hommes, femmes, noir, blanc, anglais, français, libéral, conservateur, démocrate, républicain, esclave, maître, capable, incapable, digne, indigne, faible, fort. Mais seulement entre ceux qui invoquent le Seigneur et ceux qui ne l'invoquent pas. Et tout le monde tombe d'un bord ou d'un autre. Il n'y a aucun milieu, aucun, il n'y a pas une troisième catégorie. Et moi, je veux être parmi ceux qui l'invoquent. Parce qu'il est riche envers ceux qui l'invoquent. Nous servons un Dieu qui est riche. Il était riche dans le temps de l'apôtre Paul, puis il est encore riche en 2021. Non seulement riche en argent, mais riche et généreux avec sa grâce, son amour, son pardon, sa puissance, sa joie, sa paix. Pour qui? Pour quiconque qui l'invoque. C'est pour ça que ces paroles et cet enseignement de Paul est riche et important. C'est pour quiconque. Pour qui les promesses de Dieu? Pour quiconque? Pour qui les promesses de la prière? Pour quiconque qui prie? Quelle façon, quelle belle façon de décrire les promesses de la prière. Elles nous donnent l'accès à la richesse de Dieu, la richesse de sa présence, sa puissance et ses promesses. Et c'est pour cette raison que je ne décris jamais la prière comme une obligation ou une imposition, ou même pas comme un défi ou une discipline, mais comme un délice, un privilège, un prérogative. Nous ne prions pas par culpabilité ou imposition ou obligation, mais parce que nous sommes frappés par l'énorme privilège que nous avons d'avoir accès à Dieu 24 heures par jour, 6 jours par semaine par la prière. Pour tous ceux qui ne comprennent pas la vie chrétienne, ne pensez jamais que pour nous, la prière est une forme de flagellation que nous pratiquons pour apaiser le Dieu qui est au ciel, pour gagner sa faveur. Et ce n'est pas non plus comme une discipline qu'on n'aime pas, mais qu'on adopte pour notre santé, comme faire nos exercices ou manger nos légumes. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime prier, mais c'est quelque chose qu'on fait parce que c'est bon pour nous. J'entends des parents, des fois, dire à leurs enfants, « Mange tes légumes, nettoie ta chambre, fais tes prières. » Comme si c'est une obligation, un devoir. « Reste tranquille, sinon tu vas lire un autre chapitre dans ta Bible. » Imaginez. Je ne comprends pas pourquoi qu'on force, oblige ou culpabilise quelqu'un pour goûter à un délice, pour avoir accès à la puissance, l'aide et les conseils de Dieu. Comme je dis souvent, la prière n'est pas du brocoli. Elle est un gâteau au chocolat, 3 étages avec crème glacée. C'est le dessert. C'est un privilège. Il y a tous ceux qui me demandent s'il est nécessaire de prier pour être chrétien. Mais moi, je réponds, techniquement, non, mais pourquoi pas? C'est comme si un homme me demande, « Pasteur Mark, est-il nécessaire que j'embrasse mon épouse pour être marié? » Techniquement, non, mais pourquoi pas? Ce n'est pas un devoir, c'est un privilège. Le privilège d'un moment de connexion, comme nous avons avec Dieu par la prière, une connexion avec le divin. Il y a un monde de différence entre une connaissance de Dieu et une connexion avec Dieu. Une idée de Dieu et Dieu lui-même. Comme il y a une énorme différence entre la photo d'une plage et la plage, ou la photo de quelqu'un et la personne même. Il y a une différence entre une réunion d'église en ligne et une réunion en personne avec la foule. Il y a une différence entre un Zoom avec la famille et être avec la famille. Nous avons tellement hâte à ces jours qu'on est de retour ensemble. Alors, ne vous satisfaites pas seulement avec une notion de Dieu, un concept de Dieu, la connaissance de Dieu, mais cherchez une connexion avec lui dans votre chambre de prière. Car c'est une chose de connaître les promesses de Dieu, d'être capable de les nommer, les réciter, mais c'est une autre de les réclamer par la prière, de prendre possession d'eux, de vivre les promesses de Dieu comme une réalité dans notre vie et non seulement un rêve. Alors comprenez bien, nous ne sommes pas ici pour vous pousser à la prière, mais pour vous inviter à faire partie d'une génération de chrétiens connectés avec Dieu, branchés à sa puissance et qui, par la prière, changent la direction de leur vie, de l'histoire même, l'histoire d'une église, d'une ville, même d'une nation. Car la prière nous donne le privilège de donner naissance à des réveils, des renaissances, des révolutions spirituelles, réclamer les promesses de Dieu et rendre des rêves des réalités. Une opportunité qui existe depuis toujours. Voici ce que Dieu a dit à Jérémie il y a plus que 2000 ans. Invoque-moi, encore le même phrase, le même langage, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur désire vous révéler des grandes choses cachées que vous ne connaissez pas encore pour votre église, votre ville, votre famille, votre avenir, votre vie, votre service. Et la seule chose que nous avons à faire est de s'approcher du Seigneur, de l'invoquer en toute simplicité et avec l'humilité. L'avez-vous remarqué? Il y a une action commune dans tous ces passages sur les promesses merveilleuses et puissantes trouvées dans la Bible. Un langage identique, que ce soit Ancien Testament ou Nouveau Testament. Invoque-moi pour tous ceux qui invoquent le Seigneur. Il est indéniable. Les promesses sont là et accessibles pour ceux qui prient. C'est pour cela que je répète, la prière est un privilège, car elle est la clé qui ouvre la porte à la puissance du royaume avec toutes ses possibilités et promesses. Parmi plusieurs grandes déclarations dans l'échange historique entre Jésus et Pierre en Matthieu chapitre 16, sont deux déclarations importantes parmi plusieurs. Lisez le texte à la maison si vous voulez. Mais il dit deux choses à Pierre ici, très importantes. Deux grandes déclarations historiques. « Je bâtirai mon Église ». Et les portes de l'enfer ne préviendront point contre elle. Les portes de l'enfer ne peuvent pas résister à l'Église qui avance. Puis, deuxième chose qu'il dit, « Je te donnerai les clés du royaume. » Et il est évident dans les Écritures qu'une des clés principales est la prière. Il dit, « Je te donne les clés. » Et une des clés, c'est la prière. Nous ne défonçons pas les portes de l'enfer avec un bélier qui charge pour défoncer les murs de l'ennemi par la force naturelle. Ce n'est pas avec un bélier qui charge. Ce n'est pas par la force naturelle. Ce n'est pas avec le canon qu'on défonce les portes de l'enfer, mais avec une clé, une simple clé. La clé de la prière. Depuis des siècles et encore aujourd'hui, l'Église avance et croît malgré les portes fermées, malgré les murs construits, malgré les obstacles placés devant elle, malgré les tentatives de l'empêcher, paralyser, stagner, fermer ou l'éliminer depuis 2000 ans. Et elle avance encore aujourd'hui, en 2021, malgré le COVID, malgré le confinement, malgré les consignes. Car même les portes de l'enfer ne peuvent tenir devant une église ou une personne qui prie. Et ça depuis toujours. Et la clé ne changera pas avec le temps. Et il ne faut pas qu'elle change. Sinon, elle ne marche plus. C'est une des particularités d'une clé. Il faut qu'elle demeure comme elle est, sinon elle est inefficace. So, une clé est simple. C'est simple, une clé. Mais pour qu'elle marche, il faut que ça soit la bonne clé. Il faut que ça soit la même clé. Qu'on l'aime ou l'aime pas, elle ne peut pas être modifiée ou changée, sinon elle ne marche plus. Et la prière est la clé et va toujours être la clé. Et en plus, il faut que la clé ait des dents, comme vous savez. Une clé sans des dents est aussi bon rien. Alors, savez-vous comment ajouter des dents à votre clé? Jésus nous donne la réponse en Matthieu 6, quand il dit « prier, jeûner et donner ». Ecclésiaste nous dit « une corde à trois fils ne se rompt pas facilement ». Selon Jésus, les trois brins d'une vie spirituelle solide, fort et résistant sont prier, jeûner, donner. Lisez-le à la maison, Matthieu 6. Jésus dit « lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, lorsque vous donnez ». Et pour chacun, il ajoute « ne sonnez pas la trompette, faites-le en secret ». Dieu le voit et Dieu vous récompensera, qui est une autre façon de dire, ça va produire des résultats. Priez, donnez, jeûnez, c'est la clé qui ouvre la porte. Il va avoir des récompenses et ça va produire des résultats. Lisez Matthieu 6 à la maison cette semaine pour voir ce que Jésus dit à ces sujets et comment les trois travaillent ensemble pour ajouter un punch à notre vie spirituelle. Prier, c'est un privilège. Jeûner est un privilège aussi. Et comprenez, je ne parle pas des jeûnes exagérés ou extrêmes comme fardeau misérable que nous portons, mais je parle des jeûnes d'hiver, périodiques et faits volontairement. C'est votre choix, ce n'est pas imposé. Car jeûner n'est pas une grève de la faim pour forcer Dieu à plier à nos demandes. Je ne mange pas jusqu'à temps que Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une grève de la faim, jeûner. Jeûner, c'est plutôt pour nous aider à plier à ses demandes, à connaître sa volonté. C'est un moyen pour nous aider à découvrir sa volonté et se conformer à ce que Dieu désire pour nous. C'est un moyen pour nous équiper et nous mieux préparer à vivre selon la puissance et les qualités du royaume. C'est pour crucifier les désirs de la chair et d'enlever notre ventre de sur le trône de notre vie pour donner la place à Christ et à sa parole. Le grand écrivain renommé Andrew Murray a dit ceci par rapport à la prière et le jeûne. Il dit « Prier, c'est tendre la main à l'invisible, au surnaturel. Jeûner, c'est de relâcher tout ce qui est naturel, visible et temporel. » C'est bien dit. Quand nous ajoutons des jeûnes à nos prières, c'est comme un échange. Le temporel pour l'éternel, le visible pour l'invisible, les impulsions de la chair pour les récompenses spirituelles, le naturel pour le surnaturel. La prière est de réclamer le surnaturel de Dieu, tout ce qui est spirituel. Le jeûne est pour relâcher tout ce qui est visible et charnel, les impulsions, les appétits de ce corps et de ce monde. Et nous ajoutons à cela, comme Jésus nous dit, la discipline de donner, le privilège de donner de nos biens, notre argent, notre temps, à sa cause, à son royaume, à son Église. Et la synergie entre les trois disciplines donne des dents à notre clé. Ça donne la force, la vigueur, l'autorité à notre vie spirituelle, si vous voulez. Et ces dents, ces clés ne changeront jamais. Ils font partie de la clé. Il n'y aura jamais un détour, un raccourci, une formule magique. Ce sont des principes fondés par Jésus et seront toujours jusqu'à son retour. Et moi, j'ajouterais un autre dent à la clé, qui est la lecture constante et méditative de la parole. De lire et méditer la parole de Dieu est un autre dent pour la clé. Il y a qui me demandent ce temps ici, depuis la pandémie et tout ce qui prend place dans le monde. Il y a souvent des personnes qui vont dire « Pasteur Mark, qu'est-ce que Dieu communique à travers cette pandémie, semble-t-il, interminable? Quelle est la parole de Dieu pour l'Église aujourd'hui à travers cette crise? Qu'est-ce que Dieu dit en ce moment? » Ma réponse est toujours la même. Dieu ne dit rien de nouveau, il n'y a rien de différent. Si vous voulez savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu cherche, ce que Dieu dit, commence ici, dans la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent une parole, mais très peu de personnes lisent la parole. Selon un article récent de l'Alliance évangélique mondiale, The World Evangelical Alliance, l'analphabétisme biblique, biblical illiteracy, est le problème numéro un chez les évangéliques. C'est un problème global. Et je cite quelques extraits de son article. Selon Thomas Schirmacher, le nouveau secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale, la plus grande crise à laquelle l'Église évangélique mondiale est confrontée aujourd'hui est que la connaissance de la Bible s'affaiblit. C'est le plus grand problème que nous ayons au-delà de toutes les différences théologiques, des problèmes financiers et des questions politiques. C'est extrêmement important, car si les évangéliques ne connaissent plus la Bible, ça n'a aucun sens que nous soyons un mouvement biblique. Nous n'ayons rien d'autre. Nous n'avons pas de pape. Nous n'avons pas de structure qui nous maintient ensemble, peu importe ce que nous croyons. Nous devons nous asseoir et étudier la Bible, connaître les Écritures et être correctement équipés pour le ministère. Et à cela, je dis oui. Je dis oui. Car comprenez, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même Dieu que toujours depuis l'histoire de l'humanité. À travers multiples pandémies, crises, catastrophes, guerres, holocaustes, depuis toujours, il est le même Dieu et il communique par sa parole. Et c'est ici qu'il se révèle comme le Dieu souverain, juste, compatissant, capable, fidèle, généreux, présent, le Dieu des promesses. Et c'est en découvrant et redécouvrant Dieu par la prière et la parole que nous trouvons ou retrouvons la paix, le calme, la confiance, le courage, peu importe les crises que nous vivons, personnelles ou mondiales. Et nous ne pouvons pas remplacer la lecture quotidienne de la Bible par des sites Internet, des petits dévotionnels, les réseaux sociaux ou Netflix. Une diète de bonbons et gâteaux ne suffit pas pour les jours que nous vivons. Il nous faut la nourriture solide de la parole de Dieu à tous les jours. Moi, je suis convaincu que la prière et la Bible est le meilleur antidote pour les deux sentiments qui affectent les gens le plus aujourd'hui. Avec la COVID et tout ce que nous vivons, lisons et entendons autour de nous, le doute et la crainte s'installent et le meilleur remède, le meilleur antidote, c'est la parole et la prière. Ceci était confirmé par un article et une étude faite par l'Université Harvard, qui arrive aux mêmes conclusions que Pasteur Claude a mentionné il y a deux semaines par rapport à une étude de l'Université du Québec. Selon l'article, ça dit « Une nouvelle étude de l'École de santé publique T.H. Chan de l'Université de Harvard a révélé une forte corrélation entre la lecture de la parole et l'espoir. Selon deux enquêtes menées de plus de 1000 personnes pendant la pandémie, les lecteurs fréquents de la Bible se sont déclarés plus optimistes que les lecteurs irréguliers. L'étude a également révélé que les gens sont plus optimistes lorsqu'ils lisent plus fréquemment la Bible. Selon Tyler Van Wiel, directeur du programme, la lecture de la Bible contribue au sentiment de bien-être et de bonheur des gens. Ils ont tendance à être plus heureux, sont moins subtils de se suicider et ont plus grand sens du but de leur vie. Selon le Journal of General Internal Medicine, les données les plus intéressantes sont celles qui montrent comment la Bible semble aider les gens à travers cette période sombre. Et nous ne sommes pas surpris. Parce que nous savons que si nous découvrons Dieu ici, et par la suite, on se connecte avec lui par la prière. Et quand on découvre les promesses de Dieu ici, et par la suite, on les réclame par la prière, c'est certain que ça va nous faire du bien. C'est certain que c'est la solution. Quelqu'un a dit dernièrement que les chrétiens doivent prier plus et publier moins. Pray more, post less. Hein, c'est un bel ajout à notre résolution de bouger plus et manger moins. Hein, résolution des nouvelles années. Et j'imagine que si nous publions nos affaires sur les réseaux sociaux puis nos opinions après la prière au moins, nous risquons d'être plus respectueux, plus bibliques et plus raisonnables dans nos publications. Mais c'est bien dit, prions plus cette année et prions mieux selon la Bible. Encore une fois, les coureurs allèrent dans tout Israël et Juda puis dirent « Revenez à l'Éternel afin qu'il revienne à vous ». Donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous. Tellement important. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est temps que l'Église et les chrétiens reviennent à Dieu dans la prière et avec sa parole. Qu'on écoute la voix de ses coureurs, qu'on écoute la voix de la parole de Dieu, qu'on écoute la voix de Jésus. Reviens à Dieu. Étends la main à Dieu de retour à la source avec affection, attention et application. Comme Pierre nous dit en Actes, et nous nous continuons à nous appliquer à la prière. Car la prière est notre privilège, notre clé et notre identité même. J'aime la manière qui Paul, je termine dans quelques instants, mais j'aime la manière que Paul ouvre sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 1, 2. À l'Église qui est à Corinthe et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a compris que l'Église locale, l'Église de Corinthe, l'Église de Longueuil, l'Église où ce que vous êtes, il y a l'Église locale, mais aussi l'Église universelle, globale. Mais ce que nous avons tous en commun, ce qui nous distingue, nous identifie, c'est que nous invoquons tous le Seigneur. Nous prions, l'Église prie. C'est pour ça qu'il dit, mais à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et aussi à tous les autres qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est notre distinction, c'est notre privilège, c'est notre identité. Puis il est indéniable qu'une des qualités distinctives du peuple de Dieu est la prière. Que ce soit dans le Pentateuque, les psaumes ou les prophètes de l'Ancien Testament, que ce soit dans les Évangiles ou l'Épître du Nouveau Testament. Les pages de la Bible crient vers nous. Le peuple de Dieu invoque Dieu. Et dès qu'il cesse de l'invoquer, il cesse d'être le peuple de Dieu. C'est pour cette raison que nous voyons plusieurs fois dans les Évangiles que Jésus débute ses enseignements sur la prière avec des phrases comme « Quand tu pries, Matthieu 5, 6, lorsque vous priez, quand vous priez, dites, Luc chapitre 11, non seulement que Jésus prenait pour acquis qu'un chrétien prie, mais il savait que la puissance de la prière ne peut être connue ou vécue sauf par l'acte de prier. C'est pour ça qu'il dit, bien, quand vous priez, pas si vous priez, mais quand vous priez. Car la puissance de Dieu n'est pas trouvée dans des paroles au sujet de la prière, mais dans la prière. La puissance n'est pas trouvée par une croyance dans la prière, mais en priant. Qui veut dire que nous n'avons pas besoin de plus de paroles dites au sujet de la prière, mais plus de prières, point. Car la force et la puissance n'est pas trouvée dans une grande connaissance de la théologie de la prière, mais dans l'acte de prier même. Ce n'est pas ce qu'on dit ou ce qu'on connaît sur la prière qui est important, mais le fait qu'on prie. C'est l'acte de prier qui relâche la puissance et rend les promesses de Dieu une réalité. C'est par la prière que nous vivons et demeurons vivants. Cessez de prier et cessez de vivre spirituellement, littéralement, parce que la prière nous donne accès au pneuma, l'esprit, le souffle de Dieu, ainsi qu'à sa puissance et ses promesses. Alors la seule grande question qui compte au sujet de la prière, et je termine avec ça, la seule grande question qui est importante, c'est est-ce que je prie ou je ne prie pas? Car seulement une chose compte par rapport à la prière, une chose, une question à laquelle il faut répondre. Est-ce que je prie? Est-ce que j'invoque le Seigneur? Non, est-ce que je connais la prière? Je suis d'accord avec cette prédication sur la prière? Je suis capable d'expliquer c'est quoi la prière? J'écoute une prédication sur la prière? Non, est-ce que je prie? Est-ce que je suis branché avec Jésus ou je ne suis pas branché avec Jésus? Car la puissance de Dieu n'est pas relâchée par les bonnes intentions de prier ou des promesses de prier, mais par la prière. C'est le premier pas vers le salut. Vous avez remarqué? L'apôtre Paul a dit, « Quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. » Quiconque. Le salut est là pour tout le monde. Le pardon, la grâce de Dieu. Quiconque. Personne n'est disqualifié. Par la simple prière, quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. Une simple prière qui offre sa vie à Dieu et l'invite à prendre sa vie et par la suite, naît de nouveau un enfant de Dieu. C'est le miracle du salut et de la nouvelle naissance, de devenir un enfant de Dieu par une simple prière. Ça semble être trop simple, mais c'est vrai. Simple prière, c'est le premier pas vers le salut. La nouvelle naissance, le pardon. Et par la suite, la prière est notre souffle, notre oxygène. Alors, pour qui les promesses? Elles sont pour vous. À vous les clés. À moi. À tous et chacun de nous qui étend sa main vers Dieu. Car les portes de l'enfer n'ont aucune chance contre une église, un peuple ou même une personne qui prie, qui jeûne, et qui donne, qui va servir des clés de la parole de Dieu et la prière pour ouvrir les portes aux bénéfices et puissance et bénédiction du royaume de Dieu. Nous prions, nous répondons à cet appel pour la prière et nous attendons d'avancer, croître et vivre les bénédictions du royaume de Dieu parce que nous servons de la clé que le Seigneur nous a donnée. Alors 2021 va être une année de bénédiction parce que nous avons une multitude de personnes qui se joignent à nous pour prier. C'est la clé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.